Ce lundi, journée spéciale. Ce lundi, journée spéciale, 3 ans après le début de la guerre en Ukraine. Andréane Mélard.
Et pour l'occasion, RFI sera à Kiev en direct avec nos invités, nos correspondants. On va parler de la guerre meurtrière toujours en cours, de l'état de la population et surtout de la paix. Est-elle possible? Sur quelle base et à quel prix? Rendez-vous ce lundi 24 février dès 6h temps universel sur RFI.
Les dessous de l'Infox. Sophie Malibaud.
Bonjour, bienvenue dans les dessous de l'Infox. L'Allemagne ciblée par des Infox en provenance de Russie, c'est une réalité de cette campagne électorale en amont du scrutin de dimanche. Selon un mode opératoire déjà bien connu de NewsGuard, on en parle avec Shin Labbé, rédactrice en chef de cet organe de lutte contre la désinformation. L'Infox, de la production à la diffusion sur les grandes plateformes. Notre invité Marc Fadoul de AI Forensics en connaît les rouages. L'essentiel de son travail porte sur les algorithmes opaques et influents. Il évoque les difficultés rencontrées et l'enjeu derrière cette bataille pour la sauvegarde de nos démocraties. Mais tout de suite, la chronique des dessous de l'Infox avec Olivier Four qui épingle une Infox visant à semer le doute dans le processus électoral en Allemagne. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Le vote pour les législatives anticipées en Allemagne, c'est donc ce dimanche 23 février. Dans ce contexte, des chercheurs spécialisés dans la lutte contre la désinformation ont enquêté sur une centaine de faux sites en langue allemande, actifs depuis fin 2024, relayant des messages anti-immigration ou eurosceptiques, favorables à l'AfD en tout cas. C'est le parti allemand d'extrême droite. Alors, dernier épisode de cette campagne coordonnée, la diffusion une vidéo mettant en scène des électeurs qui se plaignent de ne pas trouver le nom du candidat de l'AfD sur les bulletins de vote par correspondance. C'est en réalité une manipulation, Olivier.
Oui, l'Infox prend la forme d'une vidéo rassemblant plusieurs faux témoignages de prétendus électeurs ou électrices qui s'étonnent de ne pas voir le nom du représentant de l'AfD sur les bulletins de la circonscription de Leipzig qu'ils viennent juste de recevoir par la poste. Seules leurs mains sont filmées et on les entend s'interroger sur l'ordre d'apparition des candidats et l'absence donc des têtes de liste de l'alternative pour l'Allemagne. Les commentaires évoquent, je cite, une tentative destinée à faire perdre l'AfD et un sabotage du processus démocratique.
Un faux bulletin a donc été fabriqué pour induire en erreur le public.
Oui, et si on fait un arrêt sur image, on distingue bien un papier en tête sur lequel est inscrit Stimmzettel, ce qui signifie bulletin. On peut lire aussi Leipzig et ensuite un peu plus bas, il y a des cases à remplir pour cocher la liste et le candidat de son choix. Et effectivement, sur cette vidéo trompeuse, pas de trace de l'AfD, alors qu'on trouve les emplacements, les cases réservées à la CDU, les chrétiens démocrates, ou au SPD, les sociaux-démocrates par exemple. Si maintenant on fait une recherche sur le site de la mairie de Leipzig pour savoir exactement à quoi ressemble le bulletin de vote par correspondance de dimanche, on peut récupérer un fichier PDF qui est différent du papier brandi par les pseudo-électeurs mécontents. Sur ce modèle de bulletin officiel, apparaît bien le nom du candidat de l'AfD tout en haut de la colonne.
Alors en fait, c'est un mode opératoire déjà connu.
Effectivement, ça rappelle une autre tentative de déstabilisation survenue aux États-Unis il y a quelques mois. Une vidéo, là encore, qui laissait penser à tort à la destruction de bulletins par correspondance en Pennsylvanie. D'ailleurs, depuis jeudi, une vidéo quasi identique circule pour accréditer l'idée de fraude, cette fois-ci en Allemagne, dans la région de Hambourg.
Et est-ce que l'on sait qui est derrière ces infos?
Alors, tous les regards convergent vers le réseau de Mark Dugan. Il aurait produit cette fausse information afin de saper la confiance des électeurs allemands. Exactement, la même méthode avait été employée à l'approche de l'élection américaine. Nous l'avions détaillé ici même, c'était au mois de novembre dernier.
Oui, alors qui est-il ce Mark Dugan?
Alors, Mark Dugan, c'est un influenceur américain, ancien shérif de Floride, exilé en Russie pour échapper à des poursuites dans son pays, mais c'est surtout, Sophie, c'est surtout un troll qui sert la propagande du Kremlin via les services de renseignement russes. Selon l'organisation américaine NewsGuard et le média allemand Correctif, le réseau Dugan et les services russes ont monté une campagne de désinformation basée sur de faux reportages diffusés avant les élections en Allemagne. Une série d'infox destinée à discréditer la classe politique de ce pays via des mises en scène outrancières dans des vidéos faisant souvent appel à des outils d'intelligence artificielle générative. En plus, des contenus relayant des narratifs similaires ont également fait leur apparition sur des sites miroirs de médias allemands en ligne d'anciens journaux dont l'identité a été usurpée pour faire croire à des articles authentiques.
Merci Olivier Four de la cellule Info Vérif de RFI. Pour bien comprendre ce qu'il y a là derrière ce dispositif informationnel, nous avons contacté la rédactrice en chef de NewsGuard, Shin Labbé, en charge de l'Europe et du Canada. Bonjour Shin Labbé.
Bonjour.
Vous avez travaillé sur une campagne de désinformation qui ressemble en tout point à cette campagne mise en place en amont de l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Quelles sont les similitudes entre ces deux campagnes de désinformation ?
Oui, on a effectivement repéré un réseau de sites, 102 sites, ciblant l'élection fédérale en Allemagne en imitant des sites d'actualité locale ou nationale assez traditionnels. Et c'est la même chose qu'on avait repéré en amont des élections américaines, où on avait repéré un réseau de 172 sites qui se faisaient passer pour des sites d'actualité locale américains et qui étaient, comme ce réseau allemand, en fait générés par IA, donc des sites qui s'auto-alimentent, qui reprennent des contenus publiés ailleurs en les résumant, les modifiant un petit peu, reprenant surtout des contenus clivants, polémiques, pas toujours dans le même sens d'ailleurs, politiquement, et servant aussi de rampe de lancement à des récits faux. Sur le réseau américain, on avait repéré 26 récits faux. Et là, sur ce réseau allemand, on en a repéré 8 à ce jour. Et dans les types de récits et la manière dont les récits sont propulsés, on a aussi de grandes similitudes, notamment de la désinformation qui commence sous la forme de contenus sponsorisés placés dans des médias africains, qui ensuite être blanchis sur les sites de ce réseau. Des allégations d'abus sexuels qui s'appuient sur des deepfakes. On avait eu ça aux États-Unis visant Tim Walz, et là on a ça en Allemagne visant un des candidats, Robert Habeck, et l'utilisation d'acteurs qui vont mettre en scène de faux témoignages. Donc dans les types de récits, les tactiques et l'utilisation de l'IA, on est vraiment face à des réseaux très similaires avec une centaine de sites dans les deux cas qui se font passer pour des sites d'actualité crédibles locaux mais qui n'en sont pas.
Est-ce qu'on peut dire que ce sont un peu toujours les mêmes qui sont visés, c'est-à-dire un petit peu tout sauf le parti d'extrême droite de l'AFD ?
Alors, tous les partis ne sont pas visés. C'est principalement le parti écologiste allemand qui est visé par ce réseau, notamment Robert Habeck et Annalena Baerbock. On a aussi l'Union chrétienne démocrate qui est visée. Et après, ce qui est vrai, c'est que les contenus relayés sur ce site sont plutôt favorables au parti d'extrême droite, l'AFD, aussi au parti d'extrême droite autrichien, et mettent souvent en avant des récits sur une Ukraine corrompue, une armée ukrainienne affaiblie, une Russie plutôt forte. Donc on voit effectivement des cibles favorites qui sont plutôt le parti écologiste.
Et alors qu'est-ce que l'on sait des initiateurs de cette campagne ? Dans quelle mesure peut-on attribuer cette campagne à des acteurs russes ou pro-russes ?
Alors nous, on a clairement identifié derrière ce réseau de sites allemands un individu qui est un individu américain mais qui est devenu un propagandiste du Kremlin, qui s'appelle John Mark Dugan, qui était la personnalité qui était aussi derrière le réseau de sites américains. Lui nie officiellement être derrière ces sites comme il niait être derrière le réseau américain. Mais on a un faisceau d'indices qui laisse peu de doutes, et notamment les tactiques qui sont très similaires entre ces deux réseaux de sites, à la fois dans le type de contenu qui vont être poussés, dans l'utilisation de l'IA générative, et puis aussi tout simplement les données d'enregistrement des sites qui nous montrent que c'est bien un réseau et qui ont tous les traits de ce que cette personnalité a pu faire par le passé.
Il est aussi question de la Fondation pour combattre l'injustice, qui est en fait une organisation, comme son nom ne le dit pas, qui est une organisation dépendante de l'État russe, qui faisait partie de la galaxie de Yevgeny Prigojine.
Le lien, il est assez indirect, c'est-à-dire que Corrective, avec qui nous avons mené cette enquête, a plus travaillé sur le sujet des influenceurs que nous. On s'est vraiment concentré sur les sites de ce réseau. Mais c'est vrai que Corrective a montré que les infox lancés sur ces sites avaient été relayés par des influenceurs pro-Kremlin en Allemagne, et que ces influenceurs avaient tous un lien avec cette fondation sans pouvoir déterminer s'ils avaient été payés ou non, mais qu'effectivement cette fondation avait un lien avec les influenceurs qui ont été liés à cette campagne. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que John Mark Dugan, ses travaux sont souvent cités par des médias d'État russe, par des ambassades russes, mais aussi pour cette fondation. Donc il est connu et semble-t-il apprécié par la fondation.
Merci Chine Labbé. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef Europe et Canada de la société américaine NewsGuard. Alors, deux jours nous séparent du scrutin. Il peut encore se passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Autant dire que les chercheurs spécialistes du numérique sont mobilisés pour observer d'éventuelles manipulations à grande échelle. Mais cette veille n'est pas facilitée par les plateformes. C'est ce que l'on va voir avec notre invité Marc Fadoul.
On en parle.
Bonjour Marc Fadoul.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur informaticien. Vous enquêtez sur les algorithmes opaques et influents, c'est comme ça que c'est présenté sur votre site, sur les systèmes de recommandation des grandes plateformes. Alors vous êtes cofondateur et directeur justement de ce site AI Forensics. Comment est-ce que vous résumez les activités de cette organisation Forensics? Ça veut dire investigation.
Exactement. En fait, notre mission, c'est de tenir les plateformes, donc les grandes plateformes du web telles que Google, TikTok, YouTube, responsables pour le contenu qu'elles recommandent principalement sur Internet. C'est des plateformes qui sont très puissantes et très influentes, qui ont un pouvoir qui ne cesse de se décupler. Et notre rôle, c'est en fait de les tenir responsables vis-à-vis des citoyens et des utilisateurs du web, ainsi que de la loi.
Donc les tenir responsables, ça veut dire mettre au grand jour la façon dont elles fonctionnent et dont elles peuvent éventuellement tromper les internautes.
Exactement, et enquêter dans les cas où potentiellement elles peuvent être en violation vis-à-vis des réglementations européennes ou nationales, ou alors agir de manière totalement contraire aux intérêts des utilisateurs, parfois avec des biais systémiques qu'on peut retrouver dans les algorithmes.
Là, on est dans une période préélectorale en Allemagne. Des campagnes de désinformation, on vient d'en parler, des campagnes tout à fait coordonnées ont été détectées, avec de fausses nouvelles publiées sur de faux sites. Alors, que sait-on de la menace que cela représente pour l'intégrité du scrutin?
Les risques à l'intégrité électorale, c'est un risque récurrent que l'on retrouve sur les réseaux sociaux depuis maintenant de nombreuses années. Ça avait commencé aux yeux du grand public dès 2016 avec l'affaire Cambridge Analytica sur Facebook. À l'époque, c'était la première élection de Donald Trump. Et depuis, on a eu de cesse de voir des nouvelles évolutions des usages de la part des acteurs qui essayent de pousser des campagnes en fait, de propagande et d'influence étrangère sur différentes plateformes, que ce soit sur les plateformes traditionnelles telles que Facebook ou Instagram. Avec, maintenant, on voit aussi sur TikTok, on a eu un exemple récemment en Roumanie, on voyait qu'il y a eu de grandes campagnes qui se sont développées là-dessus. Mais c'est également sur YouTube, enfin vraiment sur toutes les plateformes, c'est un problème que l'on retrouve.
Vous, quelles sont vos capacités à enquêter sur les risques systémiques liés aux réseaux sociaux en période électorale?
Alors souvent, on se concentre sur les risques liés au système de recommandation et algorithmique, ce qui sont des risques assez difficiles à capturer parce qu'en fait, il faut en gros qu'on automatise des comptes et qu'on regarde comment est-ce que l'algorithme se comporte en fonction de différents contextes utilisateurs. Et on peut comme ça voir parfois quels vont être les contenus les plus amplifiés ou les plus recommandés à des millions d'utilisateurs. Souvent, je pense que le débat sur les risques systémiques se focalise beaucoup sur la modération du contenu. Certains disent qu'il y a trop de modération, que c'est une atteinte à la liberté d'expression. D'autres disent qu'il n'y a pas assez de modération et qu'il y a en effet beaucoup de contenus qui devraient être illégaux ou qui sont parfois des appels à la haine ou de la désinformation qui continuent à être présents sur la plateforme. Mais je pense qu'il y a encore plus d'impact que la modération, c'est l'amplification algorithmique. C'est de savoir quel contenu va être diffusé et amplifié à des millions d'utilisateurs. Et ça, c'est un problème qu'on voit, qu'on retrouve sur toutes les plateformes. Et on peut penser par exemple à X, où on voit que le feed Twitter de quasiment la totalité des utilisateurs va être rempli de publications d'Elon Musk, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas. On voit qu'ici, il y a clairement une forme d'amplification artificielle du contenu à travers l'algorithme. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut retrouver sur d'autres types de contenus, tels que les contenus qui vont être tendance à être particulièrement polarisants, parce que, en fait, ce sont des algorithmes qui sont, en plus des manipulations qu'on peut avoir manuelles, entre guillemets, comme ça peut être le cas d'Elon Musk, qui a ici un traitement de faveur sur X, on a aussi des biais systémiques en faveur de ces contenus qui vont être les plus polarisants, notamment parce qu'en fait, ils ont tendance à générer générer plus d'engagement chez les utilisateurs et ces algorithmes sont optimisés pour maximiser l'engagement, ce qui ensuite conduit à plus de profit pour la plateforme.
Comment est-ce que vous départagez ce qui est authentique de ce qui est inauthentique ?
Il y a certaines propriétés qui nous permettent de distinguer avec une assez forte certitude lorsqu'il s'agit de contenu inauthentique. Par exemple, on avait fait une étude sur Meta, donc Facebook et Instagram, où on avait regardé les publicités politiques qui étaient postées durant la campagne électorale européenne en juin. Et on avait vu qu'il y avait des réseaux de pages Facebook qui étaient coordonnés et qui postaient tous en même temps la même pub, en n'en postant qu'une fois, et ensuite le compte était supprimé. Et ça, on voit que c'est quand même un comportement qui est assez suspect et inauthentique, qui nous a en fait permis de remonter tout un énorme réseau, enfin une grosse campagne de propagande pro-russe en l'occurrence, la campagne ayant touché plus de 100 millions d'utilisateurs en Europe, à la fois en Allemagne, en France et en Italie.
À l'occasion de ces élections en Allemagne, est-ce que vous avez des observations, des signalements ?
Alors nous, on a regardé en particulier l'algorithme de recherche de TikTok, où on a identifié en effet que l'AFD était particulièrement amplifié dans les résultats de recommandations de recherche. Ça converge avec d'autres études qui sont en train de sortir en fait en ce moment, parce que c'est des études qui doivent être faites en fait juste avant les élections pour qu'elles puissent avoir un sens, parce que souvent c'est là que les campagnes deviennent actives. Ils ne le font pas évidemment plusieurs mois à l'avance où elles pourraient être détectées, ils attendent vraiment le dernier moment où là ça peut être le plus impactant. Donc c'est des études qui doivent être vraiment réalisées aussi à grande vitesse, c'est pour ça qu'on peut pas avoir aussi tout le temps des conclusions tout à fait définitives juste avant les élections, mais on voit clairement déjà des tendances où on voit en effet que l'AFD en particulier est en train de surperformer sur les réseaux sociaux quasiment sur toutes les plateformes, notamment dans les recommandations algorithmiques, ce qui peut être à la fois le résultat de biais systémiques de l'algorithme, où comme je le disais tout à l'heure, ce sont des algorithmes qui ont tendance à amplifier les contenus un peu plus extrêmes, un peu plus polarisants, parce qu'ils vont générer de la réaction chez l'utilisateur, que ce soit de la réaction d'adhésion ou au contraire du rejet, mais tout ça, ça reste de l'engagement. Et en plus, ce sont des contenus qui sont supportés par des grosses campagnes de ce qu'on appelle l'astroturfing. Donc ce sont en fait des faux comptes qui vont se coordonner pour liker, reposter, commenter ces contenus de manière à faire remonter ce contenu dans les recommandations algorithmiques et à ce qu'il soit présenté à plus de gens.
Mais vous, chercheur, est-ce que vous avez accès aux données qu'il faut ? Est-ce que les plateformes vous permettent de faire votre travail normalement ?
C'est une très bonne question. C'est en fait, ça a été un sujet majeur qui a été abordé en fait dans le contexte du Digital Service Act, donc une nouvelle réglementation européenne qui a été votée en 2002 et qui est désormais en application. Et cette réglementation en fait impose une plus grande transparence au-delà par des plateformes, notamment vis-à-vis des chercheurs, en leur mettant à disposition des accès à leurs données sur certains sujets. Alors c'est clairement un progrès, ce sont des accès auxquels on a désormais accès depuis à peu près un an, qui nous permettent de faire certaines études, telles que l'étude sur Facebook que j'ai mentionné tout à l'heure, où on a détecté cette campagne de publicité politique russe. On a pu la faire grâce à ces nouveaux accès aux données permis par la réglementation européenne. Malgré tout, ce sont des accès qui ne permettent pas de tout analyser, et notamment lorsqu'il s'agit des recommandations algorithmique, c'est quelque chose qui reste relativement compliqué à faire, où il faut enfin avoir des techniques plus sophistiquées qui font partie de notre infrastructure nous de collecte de données un peu spéciale qu'on a chez AI Forensics, où on va automatiser des comptes et ce genre de choses pour pouvoir analyser vraiment l'algorithme.
Alors pour X, un tribunal allemand a donné raison à des chercheurs pour que X soit contraint de donner accès à un maximum de données. Maintenant, on ne sait pas encore si X va accepter, puisque, a priori, Musk est anti-régulation et n'est pas du tout disposé à obéir aux règlements européens.
Tout à fait. On voit qu'aujourd'hui, Elon Musk, de même que l'ensemble, en fait, de l'industrie technologique américaine, se pose un petit peu en opposition face à cette réglementation européenne qui leur demande, en fait, une plus grande responsabilité et qui est tout à fait en accord en fait avec les valeurs européennes de manière un peu plus large, telles que par exemple le respect de l'intégrité des processus électoraux, le respect de s'assurer qu'il n'y a pas de propagation de haine en ligne, s'assurer qu'il y a aussi un respect de la santé mentale des utilisateurs. Tout ça, ce sont des choses qui sont mentionnées explicitement dans le Digital Service Act, mais qui imposent quelque part une forme de responsabilité et d'action de la part des plateformes qui se traduit pas directement par des profits de leur côté, et c'est pour ça qu'ils s'y opposent.
Mais est-ce que vous diriez qu'il y a des plateformes bons élèves et d'autres mauvais élèves, ou est-ce qu'ils sont à peu près tous dans le même type de pratique.
Alors, il y a clairement des plateformes meilleures élèves que d'autres. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait clair et net.
C'est-à-dire ?
On peut parler, par exemple, dans les mauvais élèves, aujourd'hui, on a X, ex-Twitter, qui est aujourd'hui n'a quasiment pas mis en place d'accès aux données aux chercheurs et qui, en fait, n'est pas du tout dans une approche aussi de collaboration vis-à-vis avec la Commission européenne sur l'analyse des risques systémiques, parce qu'en fait, il ne suffit pas simplement d'analyser les risques systémiques, il s'agit de mettre en place des mesures de mitigation, donc en fait des contre-mesures qui permettraient de rendre ces risques moins prééminents. Et on voit que Elon Musk n'est pas du tout dans cet état d'esprit, alors qu'on peut voir d'autres plateformes, telles que même TikTok, qui souvent est vu comme le mauvais élève et plus dans une approche de collaboration. Traditionnellement, Meta était aussi plus dans cette approche. On voit que là, il y a aussi un changement de posture de leur côté. Google est aussi souvent plus dans une approche collaborative. Mais on voit qu'il y a aujourd'hui vraiment une opposition, une forme de rapport de force entre la Commission européenne et les plateformes du web qui se sont mis en fait sous l'égide de Donald Trump pour que l'administration Trump les défende vis-à-vis de ces réglementations. Mais je pense qu'il s'agit ici d'une carte très forte que l'Europe doit jouer, puisqu'en fait, pour qu'on aille au point où J.D. Vance aille mentionner notamment qu'il y a un risque que les États-Unis pourraient sortir de l'OTAN si jamais une plainte était mise contre X, on voit que c'est évidemment un langage tout à fait excessif, mais qui montre que c'est un point en fait de négociation très fort et une carte qui est importante à jouer pour les Européens dans une relation transatlantique qui s'annonce tout à fait transactionnelle.
Mais en fait, toutes ces plateformes, elles ont le même type de modèle économique, c'est-à-dire elles sont toutes là à en fait favoriser un maximum d'engagement. Elles fonctionnent de la même façon économiquement.
Oui, tout à fait. Ce sont principalement, en fait, les systèmes de recommandation sont essentiellement optimisés pour maximiser l'engagement. Et puisque plus il y a d'engagement sur la plateforme, plus il y a d'opportunités de faire des placements publicitaires qui sont au final le modèle de revenu principal de ces plateformes de réseaux sociaux.
Donc est-ce que c'est pas ça qu'il faut changer ?
Si, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une approche que l'on défend à travers plusieurs projets où il y a notamment aujourd'hui la possibilité de mettre en place en utilisant d'autres protocoles sur les réseaux sociaux, un pluralisme algorithmique où chaque utilisateur pourrait choisir un algorithme qui lui convient, qui convienne à ses centres d'intérêt, ses valeurs, et qui puisse aussi personnaliser à sa guise. Sans que c'est besoin d'être compliqué, on peut avoir des interfaces tout à fait ludiques et approchables.
C'est ce que prône l'ancien patron de Twitter.
Exactement, c'est ce que prône Jack Dorsey qui avait fondé en fait avant de partir un projet qui s'appelle Blue Sky, qui est une plateforme un réseau social alternatif qui aujourd'hui est vraiment quand même en train de monter. Il y en a aujourd'hui plus de 30 millions d'utilisateurs dans le monde.
Mais certains disent qu'on voit déjà de la désinformation sur Blue Sky et qu'en fait, ça risque de devenir... Plus la plateforme atteindra une taille critique, plus elle ressemblera aux autres.
Il y a quand même une différence majeure avec Blue Sky, c'est son protocole. Le protocole de Blue Sky, qui est en fait, quelque part, les règles informatiques qui le régissent, font qu'il y a une concentration de pouvoir bien moindre au sein de la plateforme.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ?
Bien sûr, en fait, sur Blue Sky, on a un protocole qui est modulaire et interopérable. Modulaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les différents éléments de la plateforme, que ce soit le système de recommandation, le système de modération, l'interface utilisateur ou l'hébergement du contenu, sont toutes des briques qui n'ont pas besoin d'être contrôlées par le même acteur. Et aujourd'hui, on voit que le gros problème avec les réseaux sociaux, c'est la concentration de pouvoir excessive qui est dans les mains de ces plateformes. À partir du moment où l'utilisateur a le choix de dire « si j'aime qu'il veut changer d'algorithme ou qu'il veut changer de système de modération, il n'y a plus en fait cette délégation excessive de pouvoir qui se fait au sein d'un seul acteur.
Mais de façon concrète, comment ça se passe pour l'utilisateur ?
Lorsqu'on se connecte sur Blue Sky, on a vraiment l'impression d'avoir un nouveau Twitter, sauf qu'on peut choisir son fil de recommandation. Donc si on n'aime pas le fil de recommandation standard, on peut décider d'aller souscrire à un autre flux de recommandation qui peut être proposé par une organisation de médias, médias tels que RFI, par exemple, pourrait proposer son propre flux de recommandations avec les contenus qu'il juge de qualité. Un autre élément que j'aimerais souligner sur le protocole de Blue Sky, qui s'appelle en fait le AT protocole, c'est qu'aujourd'hui, il est encore relativement concentré au sein de le seul réseau social qui est vraiment développé dessus, c'est-à-dire Blue Sky. Je pense qu'on a une opportunité en Europe et dans le monde assez importante aujourd'hui de construire ce protocole et de construire son infrastructure pour pouvoir prendre un rôle actif dans sa gouvernance. Et je pense qu'ici, on a une solution qui s'offre à nous après plusieurs décennies où on s'est plaint quelque part d'être dépendant d'infrastructures technologiques américaines pour en fait nos systèmes d'information. On a aujourd'hui l'opportunité de devenir acteur de ce qui pourrait être le protocole du réseau social du futur. Et on a un projet qui s'appelle Free Our Feeds et qui propose de faire exactement ça.
Alors ce qu'on a compris en vous écoutant au sujet des élections allemandes, c'est que là, donc tous les chercheurs sont en train d'examiner ce qui se passe sur les plateformes. Mais qu'en est-il des élections à venir ? Au mois de mai, on va y en avoir encore deux élections importantes en Europe, la Roumanie, qui va revoter puisque le scrutin a été annulé dernièrement, et la Pologne aussi. Est-ce que à cette échéance, on peut dire que tout le monde est sur les rangs pour vérifier si il y a déjà des manipulations sur les réseaux sociaux?
Il va y avoir bien sûr des chercheurs dans tous ces pays et en Europe qui vont analyser les tendances et essayer d'anticiper les risques à venir. Les risques, dans tous les cas, seront présents. Il y aura des tentatives d'ingérence. Ce qui est important, c'est en ayant un écosystème de recherche fort sur ces risques à l'ingérence électorale, c'est de s'assurer que lorsqu'il y a des mauvaises conduites ou du manque de prise de responsabilité de la part des plateformes, parce que potentiellement, il y a un laisser-faire de certaines campagnes, vis-à-vis de certaines campagnes, il faut bien aussi distinguer lorsque la plateforme en elle-même amplifie potentiellement une certaine vision politique, et ça c'est une préoccupation notamment qu'on a dans le cas de Twitter aujourd'hui, avec plutôt un problème de négligence, qui est jusqu'à présent le problème principal qu'on avait, notamment dans le cas de Facebook ou là dans le cas de TikTok en Roumanie. Ce qu'on reproche aux plateformes, c'est pas d'avoir amplifié volontairement un certain parti politique, c'est de n'avoir rien fait pour empêcher certains acteurs étrangers de propager des campagnes de manipulation à grande échelle sur leur réseau. Et donc c'est important d'analyser ça pour que les plateformes puissent être tenues responsables.
Mais vous avez l'impression que entre le dernier scrutin où TikTok donc a laissé faire en Roumanie et le scrutin à venir au mois de mai prochain, il y aura quelque chose de changé ?
Je pense que c'est surtout dans le cas de TikTok, il s'agit d'un type d'ingérence qui est particulièrement difficile à contrer, puisqu'en fait il s'agissait d'influenceurs qui ont été recrutés et payés en dehors de la plateforme pour pousser certains messages politiques. Donc il peut y avoir potentiellement des mesures prises par la plateforme pour s'assurer, pour responsabiliser les influenceurs, pour peut-être moins amplifier le contenu politique par défaut au moment de période électorale, lorsqu'on n'a pas de garantie sur l'intégrité de cette information qui peut être proposée, de la même manière qu'on voit que sur les médias, on a un principe de parité du temps de parole qui doit être respecté en période électorale. C'est quelque chose qu'on n'a pas du tout sur les réseaux sociaux. Donc, en cette absence, on pourrait dire que les algorithmes devraient avoir une certaine forme de principe de précaution à ne pas suramplifier des messages politiques, surtout en venant d'influenceurs non vérifiés. Donc, on peut penser à certaines mesures de mitigation. Malheureusement, je ne vois pas que d'ici mai, il y aura nécessairement des progrès extrêmement significatifs à ce niveau-là. Donc, il faut aussi que la classe politique se mobilise sur d'autres sujets, notamment en termes de prévention et de dire aux gens de prendre l'information qu'ils peuvent recevoir de ces canaux avec un grain de sel, dirons-nous.
Merci beaucoup. Marc Fadoul, je rappelle que vous êtes donc le cofondateur et le directeur de AI Forensics.
Merci à vous.
Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Lorraine Nemoza à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse en compagnie de Philippe Le Caplain. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Sophie Malibaud. C'était donc les dessous de l'Infox à retrouver sur l'appli et sur le site internet de Radio France Internationale. Dans un peu plus d'une demi-heure maintenant, ce sera Afrique Soir. Ce sera avec vous, Zéphirin Quadio. Au sommaire, tout d'abord la politique au Sénégal avec le Premier ministre devant l'Assemblée nationale aujourd'hui.
Mais oui, pour la première fois, Ousmane Sonko se prête au jeu des questions-réponses. L'occasion pour le Premier ministre de s'expliquer devant les parlementaires sur les conclusions du rapport définitif de la Cour des comptes, rapport sur l'audit des finances publiques couvrant la période de gestion de 2019 au 31 mars 2024.
Autre chose dans l'actualité, cette convergence régionale des pratiques de répression au Sahel.
Ah oui, conclusion d'un rapport de la Fédération internationale des droits humains et l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture, document qui recense de nombreux cas de harcèlement, voire d'attaques ciblées contre les défenseurs des droits humains et plus largement de toutes les voix discordantes dans la région.
Et puis il y aura du sport également. En Côte d'Ivoire, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de taekwondo écope d'une prison de six mois de prison ferme.
Oui, Tadjou Adata était poursuivi pour harcèlement sexuel par une athlète. Des faits requalifiés ce matin en harcèlement moral par le tribunal correctionnel d'Abidjan.
Tout cela donc et d'autres sujets à développer dans Afrique Soir. Pour l'instant, il va être 19h ici à Paris. On se retrouve dans 30 secondes maintenant.